Effectivement, j'ai beaucoup bataillé pour cette prédication parce que j'en avais plusieurs en chantier. J'ai plein de thèmes qui me travaillent et j'arrivais pas à me décider. Et c'est vraiment à l'ADER que j'ai pris un autre thème parce que j'avais envie de rebondir sur l'actualité. L'actualité de notre Église, et on en a entendu parler aujourd'hui. Il y a une semaine, le week-end passé, les jeunes ont été inspirés par le Saint-Esprit et ils ont vécu un week-end magnifique sur l'identité gars, l'identité fille. Il y a 2 jours, l'actualité, c'était le 8 mars, la journée de la femme. Le 14 juin, se prépare la grève des femmes. La journée de la femme, la journée du sida, la journée de la lèpre, la journée du diabète, la journée des aveugles, la journée de la femme. Bof. Personnellement, la journée de la femme, moi, ça ne me bénit pas. Heureusement, il y a eu une évolution, parce que maintenant, ce n'est plus la journée de la femme, c'est la journée des femmes. Donc, c'est notre journée à nous. C'est cool. Mais les 364 autres journées de l'année, elles sont à qui ? Ok, mais ça a encore évolué, et surtout en France. C'est la journée des droits de la femme, ou des droits des femmes. Il y a une petite amélioration. Mais en même temps, si on doit avoir une journée pour le droit des femmes, eh bien ça veut dire que ces droits ne sont pas respectés, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors parlons-en. C'est quoi ce problème? Pourquoi? D'où il vient? Qu'est-ce qu'il a comme répercussion? Je vous propose d'ouvrir la parole au commencement. Au commencement Dieu. Au commencement Dieu créa. Et si on va dans Genèse 1, les versets 26-28, je ne devrais même pas avoir besoin de le lire parce que c'est le genre de verset qu'on devrait savoir par cœur, mais voilà. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Je ne vous ai pas lu le récit du commencement de la création depuis le début. Je vous ai juste lu ce qui concerne la création de l'homme et la femme. Mais on sait qu'au tout début de la Genèse, Dieu crée les cieux et la terre était informée vide, et petit à petit, il commence à mettre de l'ordre avec les luminaires, le jour, la nuit, il y a les végétaux qui viennent, ensuite il fait les animaux, ensuite il fait l'homme. On voit que tout va crescendo. Et la dernière œuvre que le Seigneur fait, c'est la femme. Elle est l'aboutissement. Donc, la femme est la plus sophistiquée des créations de Dieu. Wow! J'avais presque peur de le dire, alors merci. Certains que je connaisse, je vais regarder ailleurs, diraient c'est peut-être la plus complexe. Aussi. C'est la plus sophistiquée, la plus complexe. J'essayais de trouver le bon mot, mais je ne dirais pas que c'est la plus aboutie ou la plus complète. Ça, ce serait une perversion, parce que l'homme est autant abouti et complet que la femme, et surtout, il n'y a pas d'homme sans femme, et il n'y a pas de femme sans homme. Et tout ce que Dieu crée, même ce qui n'est pas autant sophistiqué, ce qui n'est pas autant complexe, tout ce que Dieu crée, si vous regardez comment fonctionne la création, tout est fait à merveille, avec une science infinie. Donc, nous sommes des créatures merveilleuses, que nous soyons hommes, que nous soyons femmes. Mais ce que je retirerai de ce passage, c'est que la femme, si c'est la dernière chose que Dieu a créée en y mettant toujours plus de complexité, toujours plus d'aspects sophistiqués, je ne sais pas, je n'ai peut-être pas le bon mot, c'est que la femme n'est pas une sous-créature. Elle n'est pas dans une sous-classe. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. La femme, elle est créée dans le même but que l'homme est créé. C'est-à-dire, être fécond, multiplier, remplir la terre et la sujettir, dominer sur les poissons de la mer. En fait, si on regarde ça, Dieu les bénit, et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, etc. C'est aux deux que Dieu dit ça. Pendant longtemps, moi j'ai cru que la femme, elle était sous la mission de l'homme. En fait, c'est des enseignements que j'avais reçus qui disaient la soumission de la femme, en fait, elle est sous la mission, elle seconde l'homme dans son ministère. Mais c'est du mensonge. Et moi, ça me fait mal de dire que c'est aussi des choses que j'ai expliquées. Mais c'est faux. La femme, elle a reçu exactement la même mission que l'homme, assujettir la terre, la gouverner, la gérer, être entrepreneur, manager. Elle a reçu exactement le même mandat que l'homme, avec l'homme, en complémentarité. Alors pourquoi, depuis des siècles et même des millénaires, la femme est considérée comme une sous-catégorie, une esclave, une servante, un objet, que sais-je? Pourquoi? Alors certains diront, oui, mais il y a marqué quand même qu'elle est là pour être l'aide de l'homme. Alors ça, je vous la fais court parce qu'on a déjà parlé quand même ici plusieurs fois. Ce mot qui est utilisé, c'est « etzer », et en fait, c'est le mot « aide », c'est par déduction, mais en fait, ce mot « etzer » veut dire « secours, salut, solution ». Et dans la Bible, il est utilisé seulement quand Dieu est le secours de l'homme, quand il est sa solution, quand il est son salut. Et juste là, la femme, elle est le secours, etzer, de l'homme. Donc, bien sûr que quand on secourt quelqu'un, on lui vient en aide. C'est de cette aide-là dont il est question. Ce n'est pas d'être servante, d'être esclave. Là, c'est une déformation que les traducteurs ont choisie. Ou alors, on a gardé des vieux mots français qui n'ont plus la même connotation aujourd'hui. Il faut être très, 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 très prudent quand on lit la parole. Mais alors, pourquoi ces déviations? Pourquoi ces déviances dans les compréhensions de la parole? On va un tout petit peu plus loin, toujours dans Genèse. Encore un verset qu'on devrait savoir par cœur, que je ne sais pas par cœur, mais je sais que c'est Genèse 3,15, et je sais de quoi il parle. C'est après la chute. Quand Dieu intervient. Et il parle au serpent. Et il dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait prévu de nous envoyer un sauveur. Et là, il est en train de l'annoncer. Il est en train d'annoncer à Satan, il y a la postérité, par la postérité de la femme, il y a quelqu'un qui va t'écraser la tête. Ce n'est pas la femme qui écrase la tête du serpent. C'est sa postérité, homme, femme. Mais surtout Jésus. Là, c'est l'annonce de Jésus. Mais en fait, la postérité de la femme, c'est nous aussi. Hommes et femmes, on bataille dans les lieux célestes, on bataille dans les lieux spirituels et on gagne du terrain pour le royaume de Dieu. Mais la postérité, elle vient au travers de la femme. Et Satan, il ne supporte pas ça. Donc Satan, il hait la femme. Et ça, il faut le savoir, il faut le comprendre. Et ça aide de comprendre d'où ça vient. Ça nous aide, en tant que femme, de se dire, le problème et toutes les agressions qui m'arrivent contre, en fait, l'origine, ce n'est pas les hommes. Ça remonte de beaucoup plus loin dans le temps et de beaucoup plus bas, spirituellement. C'est important de comprendre ça. C'est un combat spirituel. Satan n'aime pas la femme, mais surtout, Satan n'aime pas Dieu. Je crois que c'est aussi ça qu'il faut réellement comprendre. Parce que quand Satan s'attaque à nous, en fait, c'est à Dieu qu'il s'attaque. Il ne supporte pas. En fait, son rival, c'est Jésus, mais Jésus, il a gagné. Donc pour Satan, c'est quelque chose qui est absolument insupportable et qui sera insupportable jusqu'à la fin. Donc il s'attaque à Dieu. Maintenant, si quelqu'un veut vous faire du mal, comment est-ce qu'il va faire? Il peut vous attaquer de plein fouet. Il peut faire une attaque frontale. Mais s'il veut que ça fasse vraiment mal, pour ceux qui ont des enfants, si on vous vole vos enfants, vous aurez bien plus mal que si c'est à vous qu'on en veut. Satan, c'est ce qu'il fait. Il essaye de voler les enfants du Père, parce que ça va toucher le Père, parce que ça va faire mal au Père. Et quand Satan s'attaque à la femme, c'est ça qu'il fait. C'est vraiment important de le comprendre. Ça nous fait voir les choses différemment. Et ça nous aide aussi, nous, hommes et femmes, à nous rapprocher, à nous aimer, à nous soutenir, à nous protéger, à batailler ensemble, à comprendre qu'on est différents, mais qu'on est complémentaires et qu'on est autant des créatures merveilleuses les uns que les autres. Quand on veut s'attaquer à Dieu, il faut s'attaquer à sa personne et à sa nature. Et en fait, parfois on oublie que Dieu, dans sa nature, il a un côté féminin. Ouais. Étonnant. On peut aller voir, par exemple, dans Ésaïe 66, donc le dernier chapitre du prophète Ésaïe. Je vous lis à partir de la moitié du verset 12, donc 12b et 13. Donc c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui parle à Jérusalem. Mais essayez de comprendre ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Donc Ésaïe 66, à partir du verset 12b. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Ça, c'est Dieu qui dit. Je vous consolerai comme une mère, vous serez allaités. Il n'y a que les femmes qui peuvent allaiter. Ça fait partie de la féminité. Un homme, il ne peut pas, il ne pourra jamais. Et je suis sûre qu'avec toutes les manipulations génétiques qu'on fait, il n'y arrivera jamais. Et s'il y arrive, bof, c'est pas prévu comme ça. Dieu est féminin, Dieu est masculin, puissamment masculin, mais il est aussi féminin. Dans Luc 13, au verset 34, on a aussi à peu près la même chose dans Matthieu, je vous le lis dans Luc. Quand Jésus se lamente sur Jérusalem, qu'est-ce qu'il dit ? Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes ? Et vous ne l'avez pas voulu. C'est la fin du verset. Une poule qui rassemble sa couvée, ses petits, ses poussins sous ses ailes. Ce n'est pas un coq. Ils n'ont pas le même rôle. Ce n'est pas pareil. Mais l'un ne va pas sans l'autre. On est bien d'accord. Mais voilà, Jésus, il parle comme ça. Il y a de la féminité dans la personne de Dieu, dans la nature de Dieu. Et le nom de El Shaddai. El Shaddai, ça a été communément traduit par Dieu Tout-Puissant. Parce que la racine Shad, il y a deux façons de voir ce mot. Il y a une racine qui parle de destruction, et c'est pour ça qu'on dit Dieu Tout-Puissant, qui peut détruire le mal, et puis combattre et avoir la victoire. Mais Shad, ça veut dire sein, poitrine féminine, mamelle. El Shaddai, c'est le Dieu nourricier, c'est le Dieu qui allaite. Il y a de la féminité dans la nature de Dieu. Et si on reprend le premier passage de la Genèse, Dieu dit, faisons l'homme, donc l'être humain, à notre image, selon notre ressemblance. Il les créa mâle et femelle. Dieu est en train de nous dire, ma ressemblance, c'est mâle et femelle. Quand je crée l'être humain, c'est mâle et femelle, c'est ma ressemblance. Donc Dieu a autant du féminin que du masculin. Enfin, autant, j'en sais rien. Ça, il ne nous dit pas la proportion, mais il a les deux, il a les deux natures. Donc chaque fois que Satan s'attaque à la femme, à la féminité, il s'attaque à la nature de Dieu. Comprenez ? Et c'est tellement important de le comprendre, parce que si je veux connaître Dieu, je dois comprendre sa nature. Je dois comprendre qui il est en vérité. Pas juste une partie. Je ne peux pas le cloisonner. Je ne peux pas le compartimenter. Je dois connaître Dieu dans son entier. Si j'occulte la partie féminine, et ben jusqu'à la fin de ma vie, il me manquera un bout. Et je ne pourrai pas Je ne pourrai pas, moi, m'épanouir dans la vie qu'il a prévue pour moi. Je ne pourrai pas avoir le ministère qu'il a prévu. J'aurai un ministère, mais il me manquera un bout. J'aurai de la puissance, mais il me manquera un bout. J'aurai de l'influence, mais pas à 100%. Et à un moment donné, je vais me retrouver devant Dieu, puis j'aurai des comptes à rendre. Oups. C'est tellement important de comprendre ça, parce que ça nous permet, les uns les autres, hommes, femmes, de nous aider, de nous aimer, de nous respecter dans qui nous sommes. Si moi je comprends que les affronts qu'on me fait, ça vient de Satan, ça me permet de pardonner, ça me permet d'avoir de la compassion, parce que je suis consciente que les personnes qui ont un problème de misogynie seront jugées. Et ça, c'est vraiment, vraiment important de le comprendre. Et moi, ça va plutôt inspirer mes prières pour ces personnes-là, plutôt que de tout prendre de plein fouet. Ça ne veut pas dire que je ne suis jamais blessée. Je pense qu'il n'y a pas une femme sur Terre qui n'a pas une fois été blessée parce qu'elle a été attaquée dans sa féminité. Je pense que ça n'existe pas. Ça va? Alors, les conséquences de tout ça. Donc, Satan essaye de détruire l'être humain, la société. Pour ça, il s'attaque à la femme. Il essaye de faire du mal au Créateur. Et, par exemple, au niveau de la société, qu'est-ce qu'on trouve? Des injustices salariales, dans un pays que je connaisse, par exemple. Des difficultés d'embauche. Si tu as 20, 22 ans et puis que tu vas postuler, on va te dire « Ouais, mais attends, tu vas te marier, tu vas faire des enfants, tu seras en congé maternité, ça va nous coûter cher. Allez, on prend quelqu'un d'autre, on prend un gars. » Ou alors, si tu as des enfants en bas âge, on va se dire « Ah non, mais tu ne vas pas pouvoir gérer ta famille et ta carrière. Allez, on prend un gars. » Une femme, mais est-ce qu'elle aura les compétences? Est-ce qu'elle aura la carrure? Non, non, allez, on prend un homme. Heureusement, il y a de l'évolution et ce n'est pas comme ça dans toutes les entreprises. Mais c'est aussi comme ça. Une femme qui postule quelque part, elle doit un peu se vendre en disant « Mes enfants sont grands, c'est bon. » Ou « J'ai pas l'intention de me marier, moi, la famille, c'est rien, je veux une carrière. » Ou alors de pouvoir prouver « Ben voilà, j'ai déjà géré ça, 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 ça dans ma vie, c'est pas ma carrière qui me fait peur. » Il y a une façon de présenter les choses pour que l'employeur en face se dise « Ok. Ok, je peux lui faire confiance. » Mais un homme, il n'a pas ces problèmes-là. Pourtant, il peut être père de famille, un homme. Il peut aussi avoir des soucis familiaux. Les femmes sont utilisées comme objet pour satisfaire des désirs, pour augmenter la vente, etc. Pas besoin d'épiloguer. Sans parler des abus, des violences, des agressions de toutes sortes, jusque dans le foyer familial ou conjugal. En Suisse, il a fallu attendre 1971 pour que les femmes aient le droit de vote. J'étais déjà née. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais comment est-ce possible? Alors, il y a plein d'autres pays où ça faisait des lustres que les femmes votaient. Mais en Suisse, on a dû attendre 1971 pour être reconnue comme un être humain à part entière, avec des capacités cognitives qui nous permettent de faire des choix, d'avoir du discernement, de décider, de prendre des décisions. Non, mais est-ce possible? Et ça ne s'est pas fait facilement. Si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder le film « L'ordre divin », qui raconte l'histoire d'un petit village de Suisse allemande où des femmes se sont battues pour avoir le droit de vote, ça vaut la peine. C'est un film magnifique, je vous le conseille. Des injustices, en veux-tu, en voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On en arrive à la journée du 8 mars, c'est logique. On en arrive au 14 juin où on fait la grève, c'est logique. Avec toutes les dérives que ça comporte. Parce que, en ce qui me concerne, est-ce que je vais aller faire la grève des femmes? Eh bien, quand il y en a une, il y a longtemps, longtemps, il y a plus de 25 ans, j'étais étudiante infirmière, il y a eu une journée de la grève des femmes, c'était génial. C'était trop bien. Moi, je travaillais, enfin, j'étais en stage à Pourtalès, le vieux Pourtalès, qui n'existe plus, dans un service de chirurgie orthopédique. Donc, c'est des gens qui s'étaient un peu cassés les bras, les jambes, mais c'était pas de la grosse médecine difficile. C'était des diagnostics relativement légers. Et on fumait encore à l'hôpital. Et il y avait des gars qui s'étaient cassés la figure en parapente, en moto, en tout ça, qui avaient les jambes attachés, qui étaient cloués dans leur lit, puis il fallait tous les jours pousser le lit et puis aller les conduire à un endroit qu'ils puissent fumer. Et le jour de la grève des femmes, on les a laissés se débrouiller entre eux. Mais c'était tellement bon enfant. Je ne pense pas que ça a changé la face du monde. Et puis, en même temps, on était presque plus unis avec les hommes, justement, parce qu'eux nous soutenaient dans nos démarches. Et c'était génial. Donc, comme ça, je me dis, bah, c'est une journée un peu sympa, différente, OK. Mais aller revendiquer des droits, en manifestant de façon plus ou moins adéquate, moi, ça me pose un problème. Et je pense que le fait de vivre des injustices nous pousse aussi à réagir mal. Et en fait, on n'est pas mieux. Et pour finir, les dérives, elles arrivent jusqu'à des abominations. Et ça, moi, ça me pose problème. Donc, aller revendiquer mes droits dans la rue, je ne pense pas que personnellement, je vais le faire. Après, il y aura sûrement plein de manifestations et peut-être qu'il y a des choses dans lesquelles on peut se greffer et d'autres pas. Il faut discerner. Par contre, ma révolution, je la fais. Je la fais d'abord dans la prière. Et je la fais pour comprendre, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné? Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et petit à petit, quand je vois qu'il y a une étape qui arrive, je prends possession spirituellement pour pouvoir atteindre cette étape. Et les choses se font. Le Seigneur ouvre la voie. Ça, c'est ma révolution. Ça, c'est ma révolution que je qualifierais d'intelligente. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser faire. Je ne pense pas que ce soit juste. Mais il faut réagir avec intelligence pour ne pas blesser, pour ne pas après justement se sentir supérieur, parce que c'est faux. J'ai dit beaucoup de choses et il faut que j'avance. Là, je vous parle de la société. Mais la problématique, c'est que dans l'Église, depuis des siècles, l'esprit misogyne est présent aussi. On n'y a pas échappé. Et parfois, c'est encore pire que dans la société. Combien de femmes sont ou ont été muselées pendant tous ces siècles? Blessées, rabaissées, empêchées d'entrer dans leur ministère? Parce que le problème, c'est qu'il y a les traductions. Nous, on lit la Bible en français. Et on fait confiance aux traducteurs. Le français, il a évolué. Donc il y a des termes qu'on utilise maintenant qui n'ont pas la même connotation qu'il y a longtemps. L'histoire de l'homme et le chef de la femme. En fait, ce mot chef en grec, c'est kephalé, ça veut dire tête. L'homme est la tête de la femme. C'est déjà pas la même chose entre chef et tête. Il y a une notion de direction, de penser, de réfléchir, etc. Mais ce n'est pas la même chose. Pour nous, un chef, c'est celui qui décide de tout, c'est celui qui donne les sanctions, etc. Une tête, ce n'est pas pareil. Il y a des mots grecs qui eux-mêmes ont évolué. Dans l'Antiquité, ces mots étaient utilisés d'une certaine manière et au fil du temps, ils ont pris une autre connotation. Et tout ça, quand on lit le texte comme ça, on ne se rend pas compte. Mais en plus de ça, des fois, on sort les versets du contexte. Donc, ça fausse encore plus l'interprétation. Mais on prend ça pour du tout cuit. Et on se blesse les uns les autres. Je vais vous donner un exemple. Vous allez trouver que je suis un peu farfelue. Ça l'est. Je fais exprès. Je le dis déjà parce que... J'espère que personne n'écoutera l'enregistrement à partir de maintenant, sinon ils vont se dire « celle-ci, il ne faut plus lui donner la parole. » Il y a une phrase que j'ai entendue souvent, et moi qui personnellement me blesse, parce que je la reçois comme du racisme. Pour moi, cette phrase est fausse, mais je la reçois comme du racisme, mais dans ma propre famille, dans mon propre pays. C'est une chose de vivre du racisme quand on est dans une terre d'exil. Mais quand on est chez soi, c'est encore plus difficile. Et cette phrase, ne le prenez pas mal, parce que souvent elle est dite sur le ton de la plaisanterie, mais moi, je sais que derrière, il y a un autre esprit, c'est que les femmes se taisent dans l'église. Voilà, c'est dit. Dans 1 Corinthiens 14, 15, on trouve cette phrase que Paul a dite. Le problème... C'est que ça, c'est même pas l'entier du verset et que c'est complètement sorti du contexte. Paul, il s'adresse à des Corinthiens. Corinthe, où il y avait son port, les marins qui étaient là pour tout l'hiver parce qu'on ne pouvait pas naviguer pendant l'hiver. Qu'est-ce qu'on fait quand on est marin et puis qu'on doit attendre et qu'il n'y a rien à faire? et qu'il ne fait pas beau dehors. Bref, il y avait des perversions, il y avait de la prostitution, veux-tu en voilà. Il y avait le culte des idoles avec les prostituées sacrées, etc. Enfin, ça allait dans tous les sens. Je vous épargne le contexte. Et tout à coup, des gens se convertissent. Ils arrivent à l'église, entre guillemets, enfin, dans l'assemblée, dans les synagogues, dans les moments de culte, et ils doivent apprendre à se tenir. Ils doivent apprendre comment ce qu'on fait. Il y a tout un contexte et ça vaut vraiment la peine d'aller le creuser. Le mot de parler, la léo, c'est pas la même chose que l'ego, c'est pas la même chose, c'est parler, c'est blablater, c'est papoter, c'est parler entre soi, du coup ça fait du bruit, ça perturbe. On a utilisé ce verset pour dire que Paul était misogyne et d'autres versets, mais pas du tout. Là, il était juste en train de mettre de l'ordre dans une situation particulière, à un endroit particulier. Parce qu'il y a plein d'autres endroits où pour Paul, c'est OK que les femmes prophétisent, que c'est OK que les femmes enseignent, que c'est OK, il les appelle même apôtres pour certaines. Donc, il ne faut vraiment pas ressortir les choses du contexte. Donc, je vais vous faire un exemple de quand on ressort les choses du contexte. On va aller dans Matthieu 25. Depuis le verset 31, et c'est Jésus qui dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, les brebis, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Après, il dit, « Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, etc. » Après, il dit la même chose aux boucs qui sont à la gauche, et eux, c'est le feu éternel. Alors, petite leçon de choses, les brebis, c'est les femelles des moutons, et les boucs, c'est les mâles des chèvres. Donc, Jésus aurait pu dire, « Les moutons à ma droite, les chèvres à ma gauche. » Mais non, il a dit les femelles à ma droite et les mâles à ma gauche. Donc ça veut dire que toutes les femmes sont sauvées et pas les hommes.
Non.
Ça, c'est exactement quand on dit que les femmes se taisent dans l'église. On a sorti le verset du contexte. On ne l'a pas analysé correctement pour comprendre, mais Jésus, il voulait dire quoi? Vous comprenez? Est-ce que c'est farfelu? Eh bien, c'est la même chose. Il y a des tas de passages qui concernent la femme. Ça, c'en est un. Il y en a plein, et puis il faut que j'avance. Mais puis je ne peux pas tout vous dire. Là, je fais un espèce de survol pour qu'on comprenne cette mentalité qui a fait des dégâts, qui a fait des dégâts au niveau individuel et qui a fait des dégâts dans l'Église, qui a fait des dégâts à large échelle. Mais heureusement, Dieu travaille et les choses évoluent.
Et si ce n'était pas le cas, je ne serais pas là aujourd'hui. Et ça me fait plaisir qu'Alain soit là, par exemple. Et Alain, c'est celui qui a permis que les femmes prennent la parole dans l'église. Ça a commencé déjà pour distribuer la Sainte-Seine, pour faire venir les femmes au conseil, dans l'équipe pastorale, et puis commencer à présider un culte et tout à coup à prêcher. Mais ça, c'est énorme. Et ça, pour moi, c'est vraiment une bénédiction. J'aurais bien aimé vous parler de Phoebé, mais je pense que je ne vais pas avoir le temps, donc je me la garde. Bon, accrochez-vous, je fonce, parce que j'aimerais quand même arriver au bout. Phoebé, ok, Romains 16, dernier chapitre de Romains 16, donc c'est les salutations. C'est Paul qui a écrit aux Romains, donc aux chrétiens de Rome.
Et il finit sa lettre par les salutations. Romains 16, versets 1 et 2. Je vous recommande Phoebé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancherie, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, ainsi que moi-même. On a plein de problèmes avec ce passage. Si on le lit à la vitesse, on se dit « Ok, il salue Phoebé, il faut bien s'occuper d'elle, et puis parce qu'elle est gentille, et puis hop, on passe à la suite. » Le verbe « diakonès », c'est « diakonos » en grec, qui veut dire « ministre ». Toutes les fois, la plupart du temps que Paul se dit de lui-même et de ses compagnons d'œuvre qu'il est ministre de la parole ou du Seigneur, c'est diakonos. Mais là, il y a une femme. Alors les traducteurs, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut quand même pas dire ministre. Allez, diakonès. Et voilà. Ça, c'est... Ben oui, ça fait partie de ces compréhensions-là, Saint-Loup, les diakonès de Saint-Loup. Mais c'est des ministres. Ces femmes-là sont des ministres de la parole. Donc Phoebé était ministre au même titre que Paul et ses compagnons d'œuvre. Là, ce qui a marqué, c'est qu'elle était diaconesse de l'église de Sancheré. Sancheré, avec son port, est à 11 km de Corinthe. Et Paul était à Corinthe. Et il était en train de finir cette lettre aux Romains, donc cette lettre pour Rome, depuis Corinthe. Et le système des facteurs, à l'époque, la poste n'existait pas, donc on donnait nos courriers, nos choses à des coursiers ou des facteurs, entre guillemets, mais des fois, le courrier se perdait en route. Et il y avait deux moyens de voyager, par terre ou par mer. Et par terre, c'était vraiment dangereux parce qu'il y avait des brigands le long de la route. Par mer, il ne fallait juste pas faire naufrage, mais sinon c'était moins dangereux. Mais seulement ça coûtait cher. Donc il fallait des sous. Et voilà que Paul recommande Phoebé qui va aller à Rome et certainement qui lui a donné la lettre. En se disant, cette lettre, elle est tellement importante, puis c'est un monument, cette lettre. Paul, il pèse chacun de ses mots, comment c'est construit, enfin bref, je vous épargne tout ça. Il n'allait quand même pas perdre ça. Donc, il confie cette lettre à une personne de confiance. Et ce n'est pas un homme, c'est une femme. Mais en plus de ça, il dit qu'elle en a aidé beaucoup, ainsi que moi-même. Mais en fait, ce mot pour aider beaucoup, c'est le mot qui est utilisé veut dire patron, protecteur. Et moi, ce que j'ai trouvé fou, je n'ai pas eu le temps d'aller creuser vraiment l'étymologie et toutes les conséquences de ce mot, mais en grec, c'est prostatis. Parce que Phoebé a été prostatis pour moi, qui dit. Et si on pense, mais ça c'est moi, hein, je n'ai pas eu le temps d'aller chercher, mais ce mot prostate, elle sert à quoi chez les hommes? C'est ce qui sert à engendrer la vie. Ça représente la puissance. Un homme sans prostate n'a pas de puissance. Il ne peut pas engendrer. Ça fait partie... ça montre quand même une certaine autorité, un certain pouvoir. Et ce qu'il est en train de dire, Paul, elle a été ça pour moi. Elle m'a protégée, elle m'a aidée. Donc ce qu'on peut comprendre, c'est que cette femme, Phoebé, c'était une femme d'influence. C'est une femme qui avait sûrement ses propres entreprises et qui avait de l'argent. Et qu'elle a subvenu aux besoins de Paul financièrement. Mais sûrement pas seulement, sûrement spirituellement, elle a dû l'aider, elle a dû l'accompagner dans son ministère, et en tout cas, au minimum, elle a dû entendre ses enseignements. Parce que quand il la recommande, il dit « Assistez-la dans les choses où elle aurait besoin de vous », c'est certainement pas financièrement, puisque c'est elle qui assiste les autres, mais c'est plutôt « Donne cette lettre à Priscille et Aquilas, qui sont à Rome, pour qu'ils convoquent les assemblées chrétiennes, et qui t'amène le beamer, qui t'amène l'ordinateur, et tout ça, pour qu'elle puisse expliquer la lettre que je vous ai écrite. » Et en fait, il mandate Phoebé pour enseigner. Ça, c'est des exégètes, des théologiens qui ont compris ces choses-là. Et on comprend beaucoup mieux après ces 1 et 2 versets de Phoebé. Encore un exemple pour dire, notre lecture primaire est dangereuse. Quand on tire des conclusions hâtives, c'est mieux d'assurer ses arrières. C'est la même chose par rapport à l'autorité. Dans 1 Timothée 2, il y a un passage extrêmement difficile qui a fait qu'on a coupé la parole aux femmes parce qu'il y a marqué qu'elles n'avaient pas le droit d'enseigner les hommes ni de prendre autorité sur l'homme. Alors là, je vais aussi aller vite. C'est vraiment un survol que je vous fais, mais pour vraiment qu'on prenne la mesure. Ce mot d'autorité où Paul il interdit à la femme de prendre autorité sur l'homme, ce mot n'est utilisé qu'une seule fois dans la Bible. Autentein. Et en fait, c'est un mot qui a évolué. Ce mot, il voulait dire se proclamer l'auteur, l'origine de quelque chose. Ça a donné authentique, auteur. Mais ça voulait dire aussi tuer. La toute première signification voulait dire tuer de sa propre main, suicider. donc agir de sa propre autorité. Puis petit à petit, ça a évolué et maintenant, ce qui est resté, c'est dominer en vue d'exercer une emprise. Donc Paul est très prudent quand il utilise ce mot que les femmes n'osent pas prendre autorité sur les hommes. Il utilise ce mot pour dire « je ne veux pas que les femmes cassent les hommes, qu'elles prennent une emprise, qu'elles aient une emprise, qu'elles dominent sur eux d'une manière malsaine. » Parce que Timothée était à Éphèse. À Éphèse, il y avait le culte de Artémis. Donc c'était à fond dans le culte des idoles féminines. Donc là, les femmes, au niveau païen, elles avaient vraiment un pouvoir. Mais avec ce qu'elles avaient, ce qu'elles inculquaient, ce qu'elles donnaient aux hommes, elles pouvaient les casser juste par des paroles déplacées, par des comportements, etc. Et Paul leur dit, mais ça c'est fini, c'est pas juste, c'est faux. Par contre, la vraie autorité, elle est différente. La vraie autorité, c'est Dieu qui élève le Fils. C'est le Fils qui est le chef de l'Église. Il élève l'Église. C'est l'homme qui élève la femme. Il est le chef de la femme. En fait, quand Dieu, le Père, élève Jésus, Dieu, le Père, il a l'autorité pour élever Jésus. À tel point qu'il l'a établi au-dessus de tout nom, de toute puissance, qu'il lui a soumis ses ennemis, il en a fait son marchepied. Le Fils, Jésus, quand il prend autorité, c'est pour élever l'homme, c'est pour l'établir dans ses fonctions, c'est pour le revêtir de puissance, d'autorité. C'est pour le consoler aussi, pour le guérir en lui disant « Regarde, tu es capable, je t'envoie, je te donne un ministère, vas-y ». Il perd pas son autorité. Donc, pour l'homme qui prend autorité sur la femme, c'est que l'homme, il voit ce qu'il y a dans la femme et qu'il lui fait sa place. J'ai discerné ça de Dieu en toi. Vas-y, je t'accompagne, je t'aide. Et moi, si je suis sous l'autorité de Ritz, je suis pas en soumission, dans le mauvais sens du terme, mais je suis sous son autorité qui a cette connotation de protection. Cette autorité qui élève, qui établit, qui envoie, qui dit « j'ai discerné ça, je t'accompagne ». Et si quelqu'un s'en prend à toi, je suis là. Vous avez vu comme il est venu pour prier pour moi tout à l'heure? Là, j'étais soumise à son autorité. Complètement. Et j'ai besoin de cette autorité-là. Se pose la question d'une femme qui a un mari qui n'est pas chrétien, ou d'un mari chrétien mais qui vit dans le péché, ou qui a sa vie qui n'est pas en ordre. Elle doit soumettre à son mari ou à Dieu? Ce n'est pas toujours si simple. La réponse n'est pas toujours facile quand on est dans la situation. Mais quand on comprend ces textes, une femme qui est dirigée par l'Esprit de Dieu, est-ce qu'elle doit se soumettre à un homme qui est dirigé par le prince des puissances de l'air et tout ce qui est écrit dans Éphésiens? C'est en fait, quand on commence à comprendre ces versets, on arrive un peu mieux se positionner en se disant « Mais qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce que je n'ai pas compris jusqu'à maintenant? Quelles sont les écailles de mes yeux que tu veux enlever, Seigneur ?» Il faut vraiment que j'arrête. Des passages comme ça, il y en a plein dans la Bible. Et ils mériteraient tous, même ceux que je vous ai dit, ils mériteraient tous d'être vraiment analysés en profondeur, de reprendre tous les termes, les formes verbales, les contextes donc géographiques, de l'époque, de l'histoire, des mentalités, vraiment dans son ensemble, et puis on pourrait aller plus loin. Mais je pense que ce matin, ce que j'avais envie de donner, c'est que ça ouvre nos compréhensions, c'est que qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme, qu'on puisse le recevoir. J'avais pas envie que les hommes se disent c'est les femmes qui font leur révolution, quoi, leur revendication. Moi, ça, j'aurais raté. Si c'est le message qui a passé, j'aurais raté. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on comprenne qu'on est différents mais complémentaires, que homme-femme, on fait pleinement partie de la nature de Dieu. On a la nature de Dieu en nous et on a tous du masculin et du féminin, de toute façon. Parce qu'il y a des attributs plus féminins, prendre soin d'eux, consoler. Mais un homme peut prendre soin d'eux et consoler. Donc, on a tous, de toute façon, ces deux natures en nous, mais il y a beaucoup plus de masculinité chez un homme et beaucoup plus de féminité chez une femme, c'est normal. Et on a besoin les uns des autres. On a besoin que les hommes nous donnent notre place de façon juste. Et nous, les femmes, on a besoin d'entrer dans notre ministère en étant dégagées d'amertume, de rébellion, de revendication malsaine. Nous, les femmes, on est appelées à recevoir les guérisons dont on a besoin, parce que ma foi, il y en a besoin, parce que des abus, des violences et tout ça, ben ça fait partie de notre vie. Mais on a besoin de bénir à notre tour. On a besoin de dire aux hommes, je reconnais ce que Dieu a fait dans ta vie. J'ai besoin de ta protection, j'ai besoin que tu me laisses ma place, mais pour que moi, je puisse aussi être un soutien pour toi, pour que moi, je puisse être ton secours. En fait, on doit se retrouver sur un pied d'égalité pour œuvrer ensemble, pour notre vie terrestre, notre vie naturelle, mais aussi pour la vie spirituelle. C'est ensemble qu'on combat dans les lieux célestes, c'est ensemble qu'on fait venir, qu'on vient faire s'établir le royaume de Dieu sur la terre. Et c'est ensemble qu'on fait la différence avec ce qui est en train de se passer, tout ce qu'on a entendu ce matin, tout ce qui se passe dans la société. C'est si nous, on est forts ensemble, qu'on voit qu'il n'y a pas de rivalité entre nous, qu'il n'y a pas de rapport de force, mais au contraire, qu'on est tellement unis, qu'on s'élève les uns les autres, qu'on se supporte les uns les autres, là on aura gagné. Et un dernier mot pour l'autorité, ce qu'il y a dans cette autorité, c'est responsabilité, service, humilité, capacité d'élever, encourager, établir. Ça, c'est l'autorité selon Dieu. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ta sagesse infinie. Je te remercie pour les merveilles que nous sommes chacun d'entre nous. Tout ce que tu le crées à merveille. Tu ne fais jamais faux, tu ne te trompes jamais. Tu fais jamais de l'à peu près. Tout ce que tu fais te réussit. Et merci parce que c'est ce que tu es en train de nous rappeler ce matin. Qui que nous soyons, nous sommes des créatures merveilleuses parce que nous sommes l'ouvrage de tes mains. Simplement pour ça. On n'a rien à prouver. On est juste l'ouvrage de tes mains. Nous sommes des créatures merveilleuses. Seigneur, je te remercie pour l'équilibre que tu as mis entre nous, hommes, femmes. Je te remercie parce que, avec les compréhensions que tu nous donnes, ça nous ouvre la porte pour nous aimer les uns les autres, pour nous supporter, pour nous porter, pour nous élever, pour nous encourager, pour nous servir, pour être plus forts ensemble, pour trouver la consolation en toi, pour trouver de l'assurance en toi, pour nous épanouir dans notre identité propre qui est en toi. Merci parce que tu as mis de ta nature divine en chacun d'entre nous. Tu es merveilleux. Tu es bon, tu es compatissant. Seigneur, je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante de ce que tu es en train de faire. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous libères. Merci parce que tu es en train d'établir ton règne. Ton règne avance. Envers et contre tout. Béni soit ton nom, éternel Dieu, Père, Jésus-Christ, ton Fils. Saint-Esprit. Amen.